France Inter.
Il est 5h13, les chroniques littorales nous emmènent dans l'un des endroits les plus hostiles de la planète Terre. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Les abysses, et ce grâce à un livre, un atlas.
L'atlas des abysses est une plongée dans les grands fonds marins, un des derniers sanctuaires, un des derniers mystères de notre planète. C'est un très bel atlas par deux auteurs, José Sarrazin de l'Ifremer et Stéphanie Brabant qui est grand reporter. Avec nous ce matin, Stéphanie Brabant, comment est né cet atlas ?
D'un accident de vélo. Je me suis retrouvée immobilisée, incapable d'aller sur le terrain, et je me suis dit, sur quoi je pourrais écrire ? Et j'ai eu l'idée de faire découvrir ce monde qui est totalement invisible de la surface. Les grands fonds marins, c'est 66% quand même de notre planète. Mais c'est quand même un an et demi de travail, de recherche avec José Sarrazin.
Et puis, il faut dire aussi, 40 illustrations de Julie Terrazzoni, hein. Magnifique.
Voilà. J'ai vraiment tenu à ce que ce soit Julie qui fasse les illustrations, parce qu'il y a une poésie dans ces grands fonds qu'elle a parfaitement su rendre. C'est sublime, et c'est aussi sublime que quand vous descendez dans les grands fonds marins. Alors la plupart du temps, c'est avec des rovs, des caméras.
C'est automatisé plutôt.
Voilà, c'est des robots téléguidés de la surface avec des caméras HD et des bras pour récupérer les espèces, des projecteurs pour éclairer ces fonds marins, puisqu'à partir de 200 mètres, on est dans une espèce d'obscurité laiteuse. Et puis à partir de 1000 mètres, c'est la nuit noire. On appelle ça la zone de minuit d'ailleurs. Et avant, c'est la zone crépusculaire.
Allez. Question fondamentale. Dans le chapitre « Les champions de l'extrême », le calmar géant, il existe ou pas ?
Bien sûr, bien sûr, il existe. Au début, on ne savait pas, c'était des légendes, on croyait. Puis on a trouvé des cadavres échoués. Et il y a un professeur japonais, complètement obsédé par le calmar géant, qui a finalement réussi à le filmer. On a retrouvé des becs de calmar géant dans l'estomac des cachalots.
Oui.
Ces fameux becs d'où on tire l'ambre, l'ambre qui servait autrefois de parfum très rare et très recherché. On en sait beaucoup plus grâce à Michel de Segonzac, qui est un chercheur de l'Ifremer, qui a pu le voir, lui, alors qu'il était dans le sous-marin, le Nautil.
Le fameux Nautil qui est descendu à 6000
mètres. À 6000 mètres, voilà, c'est ça. Qui est un des rares sous-marins au monde à descendre à 6000 mètres.
Stéphanie Brabant, alors on va s'en aller. On part vers les îlots de vie inattendus avec la photosynthèse et la chimiosynthèse.
Jusqu'à très récemment, on pensait qu'il n'y avait pas de vie dans les grands fonds. Parce que il y a très peu de nourriture, la pression est énorme.
Il n'y a pas de lumière.
Il n'y a pas de lumière. Donc on se disait, impossible de trouver de la vie. Et puis en 1977, des géologues vont découvrir des fumées noires, les fumeurs noires, des sources hydrothermales.
Les fameuses cheminées.
Voilà, ils vont prélever des roches, des cheminées hydrothermales sur un champ qui s'appelle Lucky Strike, allusion aux fumeurs, mais pas seulement. Pêche heureuse, parce qu'ils vont les remonter. Et surtout, là, ils vont découvrir des geysers qui jaillissent de la mer, de l'eau de mer qui s'est infiltrée sous la roche et qui rejaillit et se concentre et se transforme au contact de l'eau de mer froide avec des éléments chimiques. Et là où ils s'attendaient simplement à voir ces fumeurs noires qui crachent comme des locomotives à vapeur, ils ont découvert une oasis de vie. Une vie luxuriante avec des crevettes acrobates, des moules géantes, des crabes, et en fait ça prouvait que la vie était possible. Alors ils vont se dire, mais comment c'est possible qu'il y ait une vie au fond de ces océans, dans un univers a priori toxique, où des cheminées crachent de l'eau à 400 degrés, et en fait c'est plus la photosynthèse, c'est la chimiosynthèse, c'est-à-dire que l'eau de mer est chargée d'éléments chimiques qui tombent en particules et qui vont nourrir cette nouvelle chaîne alimentaire. Les éléments chimiques vont s'accumuler, former des cheminées qui peuvent mesurer jusqu'à 45 mètres pour la plus grande qui s'appelait Godzilla, qui depuis s'est effondrée.
Stéphanie Brabant, que préférez-vous dans ces abysses ?
J'aime beaucoup le kiwa hirsuta découvert par Michel de Segonzac. C'est une galatée, c'est-à-dire un petit crabe qu'on a appelé le crabe yéti parce que ses pattes, ses quillipèdes, ses pinces sont couverts de longs filaments blancs qu'il est capable de brouter pour se nourrir. Parce que dans ces filaments blancs, il y a des bactéries et du coup, il agite ses pinces en cadence dans les fluides chauds des sources hydrothermales pour récupérer les bactéries et se nourrir.
Merci à vous Stéphanie Brabant. L'Atlas des Abysses, avec José Sarrazin, et les illustrations de Julie Terrazzoni. Et c'est aux éditions Artaud. À demain, Mathilde Munoz.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque.